Javelot, disque, cafetière, ce matin nous allons tout lancer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pire reste à venir sur les antennes de Principe Actif 102.4, 95.9 et sur l'antenne de la radio HDR 99.1. Vous l'avez compris, comme régulièrement le matin, nous sommes partis jusqu'à 9h et ce matin nous allons parler athlétisme, sport, Jeux Olympiques carrément. Bah ouais, on s'était dit que finalement les Jeux Olympiques allaient se dérouler à moins de 100 km de chez nous cet été, ça allait forcément avoir des influences sur ce qui se passait par chez nous. Et ben justement, ce matin, je reçois Pauline et Raphaël, dont la mission est justement d'en faire la promotion de ces Jeux Olympiques, de faire de l'action autour de ce grand événement. On aura l'occasion d'en parler justement. Raphaël et Pauline sont en fait missionnés par le département de l'Eure, mais ça, on y revient dans un instant. La recette de cette émission, du bon son, de la bonne humeur, c'est une recette qui fonctionne. C'est la même que d'hab.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDR.
Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute. 99.1
HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et nous sommes, comme je le disais, avec Pauline Gassama, responsable du projet Terre de Jeux pour le département de l'Eure. Elle est accompagnée de Raphaël Degosse, qui est assistant sur ce projet Terre de Jeux. On va en parler longuement. Bonjour à vous, Raphaël et Pauline. Comment allez-vous ?
Bonjour Cissé, ben merci déjà de nous accueillir dans tes locaux. On est très content d'être là. Écoute, ça va très bien. Pour ma part.
Idem pour moi, ravie d'être de retour dans ce petit studio.
Alors toi, tu commences à dévoiler les choses, Pauline. Effectivement, tu es de retour dans ce studio. C'est toi qui as lancé le sujet, nous aurons l'occasion d'y revenir. En quelques mots, qui êtes-vous et puis qu'est-ce que ce projet de Terre de Jeux, on aura l'occasion d'y revenir sur l'heure de cette émission. Mais pour commencer, qu'est-ce que ce projet en quelques mots?
Alors, Terre de Jeux, c'est un label qui a été créé par Paris 2024, qui est à destination des collectivités, donc des communes, des départements, des régions, qui ont l'objectif, l'envie de mettre un peu plus de sport dans la vie de leurs habitants, en lien avec les Jeux Olympiques qui arrivent très prochainement.
Ouais, c'est ça, c'est cet été, hein, ça va arriver très très vite. Vous-même, Raphaël, Pauline, vous êtes des sportifs, des spécialistes des Jeux Olympiques, des technocrates ultimes.
Je prends la main, on va dire que je suis une sportive, née dans une famille de sportifs et je vis du sport au quotidien, alors pas le matin mais du fin de matinée jusqu'au soir.
Ah d'accord, t'es pas une sportive du matin,
non,
toi.
Pas une sportive,
t'es une sportive
du matin.
du après petit-déj quoi.
C'est ça.
Raphaël, toi le lien avec le sport?
Et alors moi, sportif on va dire passionné. Depuis tout petit, multisport, j'ai un peu tout pratiqué, de la natation, du rugby, du foot, du tennis. Depuis récemment, du badminton, j'ai pris ma licence il y a peu. Et voilà, je suis pas mal de sport, très content de participer à cette grande fête des Jeux Olympiques qui arrive cet été en France, à Paris, tous les 100 ans. Donc c'est un événement exceptionnel, donc très content d'y participer et très fier.
Très bien, on aura l'occasion d'y revenir sur ce que représentent aussi les Jeux Olympiques, parce que mine de rien, bah c'est quand même l'événement planétaire qui va se dérouler cet été. On aura l'occasion d'y revenir. On ouvre avec un tout premier morceau, The Jubilers. Je sais pas comment on dit ça, parce que je suis toujours aussi mauvais en anglais. J'aurais envie de dire The Jubilers. Un mix de gospel des années 60 avec quelque chose d'un peu plus récent. The My God's talking rattle, said he would ride on a wind and tide. Children, stop, still, and listen to me. God walked down to the brandy sea. He declared that he was a simple man, and then he decided to restore the land. He spoke to Noah, Noah stopped. He said, Noah, I want you to build me an ark. I want you to build it 3 cubits long. I want you to build it big and strong. I want it 50 high and 50 wide, so it will stand the wind and tide. It's oh, oh, no. Oh, oh, no. Oh, oh, no. I'm just gonna ride on the wind and tide. But it's a oh, oh, no. Oh, oh, no. Oh, oh, no. I'm just gonna ride on the wind and tide. Foundation were laid, and then Noah began to hew and build. The ringing of the hammer cried judgment, the hewing of the saw cried sin and repent. 100 years he hammered and sawed, building the ark by the grace of God. And when the ark was done, God's voice was heard. He said, now Noah, let me tell you what to do. Call in the animals 2 by 2, so he pulled them in the ark 2 by 2. He called the birds, the ox with the kangaroo, and he called in to your face the ham and the sand. Then life began to flood the land. He raised his hands to him on high, shook the stars and moon from the sky, shook the mountains through trouble to see. History went to his chariot to wheel. He stepped on land, stood on the shore, and he climbed that time. There wouldn't be no more words. Oh, oh, no.
Ouais, salut le matinal.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Alors ce matin, il y avait des messages, mais en fait, ils étaient inaudibles. C'est terrible, je passe des semaines à vous inciter à nous laisser du message, et le jour où il arrive, il est inaudible. Emparez-vous de 02 32 62 57 32, laissez-nous un petit message, nous racontez qu'il y a un événement à côté de chez vous, quelque chose que vous organisez éventuellement, vous nous donnez de vos nouvelles, ça fait plaisir, ou nous lire une poésie. Moi, je vous le dis, hein, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de poésie sur le répondeur, et j'adore ça, la poésie, donc faut surtout pas hésiter à nous laisser un petit quelque chose au 02 32 62 57 32. Nous sommes toujours avec Raphaël et Pauline du département de l'Eure, ou plus précisément sur le projet Terre de Jeux. On a abordé très rapidement qui ils étaient. Moi, je voulais revenir avec vous, Pauline, Raphaël, sur les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que cet événement d'exception qui est les Jeux Olympiques pour vous?
Tu l'as dit, c'est principalement un événement d'exception dans le sport. Ça a lieu tous les 4 ans. Donc ça rassemble, on va dire, la majorité des sports que l'on connaît, mais aussi des sports méconnus. Et c'est un moment de partage surtout entre les habitants de toute la planète. Et puis un moment de découverte culturelle aussi pour chaque continent.
Il y a vraiment une notion de fraternité quand même dans ces jeux. C'est peut-être la compétition sportive sur laquelle c'est le plus évident, cette notion de fraternité entre les peuples.
Effectivement, si on parle des valeurs de l'olympisme, on a le terme amitié qui fait partie des 3 valeurs de l'olympisme. Et donc, on est vraiment sur un moment d'entraide et de partage entre les sportifs, même si bien sûr que la compétition donne aussi l'envie de gagner, ça n'empêche pas le terme d'amitié.
Oui, c'est ça, il y a quand même une vraie compétition qui se passe derrière. Être médaillé aux Jeux Olympiques, c'est pas n'importe quoi quand même.
Non.
Ça veut dire quelque chose. Raphaël?
Alors, pour moi, juste pour revenir sur l'évocation des Jeux Olympiques, je pense que pour beaucoup, c'est aussi des premiers souvenirs de sport. de grands moments de sport. On a eu la chance en plus en France d'avoir des grandes voix, notamment sur l'athlétisme, qui commentaient ces sports-là. C'est l'événement planétaire majeur, où beaucoup de sportifs se rencontrent. Ça donne aussi envie à des jeunes de pratiquer des sports qui sont peut-être un peu plus méconnus. Donc voilà, c'est vraiment.
On en découvre tous les ans, hein, si on traîne un peu sur. Je pense notamment à la diffusion télé des sports, hein, parce que c'est souvent comme ça qu'on y accède. On découvre toujours des trucs improbables, quoi. On se dit, ah bon, ça existait, ça? Et ils en font des compétitions? Mais ils sont forts en plus.
Exactement. Et je pense qu'on pourrait même souligner aussi le fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir de plus en plus de visibilité sur les Jeux paralympiques. Et là aussi, il y a à la fois un message d'espoir et d'aide pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou autre et qui ne savent pas comment pratiquer du sport. Ça peut aussi, voilà, donner des idées. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus télévisuel et c'est beaucoup plus mis en avant. Donc, c'est quelque chose de très bien aussi pour ces disciplines.
Et puis, il y a un autre truc, c'est que, en fait, dans notre territoire, je reviens sur la notion de département, sur notre territoire, dans l'Eure, eh bien, on a des champions olympiques ou des participants aux Jeux olympiques des années précédentes, c'est-à-dire que sur le territoire de l'Eure, nous avons des sportifs qui ont déjà représenté les couleurs de la France sur ces Jeux.
C'est ça, c'est... On a une petite liste de sportifs qu'on appelle ça les Olympiens, les athlètes olympiens qui ont déjà participé à une Olympiade. Donc, il y en a plusieurs qui sont encore en activité, souvent devenus des bénévoles dans des clubs. Et donc, je pense que pour eux, c'est aussi se rappeler de bons souvenirs. Et c'est les premiers à partager leur expérience et nous apporter des petites infos, des petites anecdotes pour faire vivre encore ce qu'ils ont vécu.
Et puis, c'est aussi tous ces clubs, parce que finalement, quand on envoie des athlètes de l'heure sur des compétitions olympiques, c'est bien souvent des gens qui ont pratiqué dans les clubs locaux. Je pense à l'EAC Athlé, forcément, qui a déjà eu des coureurs, notamment, mais pas que, hein, d'ailleurs, jusqu'aux Jeux Olympiques, qui a un palmarès important. Ça donne aussi un peu de je sais pas comment on dit, de peps aux clubs locaux aussi. Quand on envoie un sportif, j'imagine, sur une compétition de cette importance, ou en tout cas un sportif qui est passé par nos clubs, c'est toujours un peu la classe quand même.
Ouais, je pense que c'est un bon coup de projecteur sur les clubs. Et puis effectivement, ça rappelle que le sport en France, à la base, c'est fait dans le monde associatif, dans les clubs locaux, et que c'est la base de notre modèle, et que sans eux, aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir de champions aux Jeux Olympiques.
C'est intégré, ça, par exemple, à l'EAC. Je me permets, parce que tu connais bien ce club, Pauline, l'EAC Athlé. tandis que t'en veux, hein, mais ça fait partie aussi des moteurs pour un club comme l'EAC Athlé ou comme un club de sport en général, de se dire là, on pressent un tel, on va le préparer ou on fait quelque chose dans ce sens-là. Comment ça marche?
Alors, je pense que quand on a des athlètes qui atteignent un niveau international, effectivement, ça fédère. Là, si je prends l'exemple de Jusqu'à Oumaté l'été dernier au championnat du monde, tout le club a souhaité se réunir dans un petit bar à côté du club pour regarder la compétition, pour se fédérer autour. Et effectivement, ce sont des exemples qui rassemblent.
Il sera porteur de la flamme, je crois, d'ailleurs, non?
Effectivement, c'est le capitaine. Alors, je crois qu'il a été désigné même capitaine normand. Et il sera à Jesse Owens en tant que capitaine du relais collectif de la Fédération d'athlétisme.
On y reviendra dans un instant, parce que ça veut dire des choses aussi. Mais effectivement, voilà, pour un club local, d'aller se fédérer derrière un sportif, voilà, c'est plutôt... c'est fédérateur. Des fois, quand on parle d'athlétisme, on dit que ce sont des sports à performance individuelle, mais à esprit collectif quand même, non?
C'est totalement ça. Alors moi, je dis toujours, moi qui ai fait beaucoup de sport et de l'individuel et du collectif, je dis toujours que l'athlétisme a été le sport le plus collectif sur lequel j'ai vécu. Parce que même si, effectivement, c'est notre performance individuelle, mais dans la plupart des compétitions, notre performance individuelle, elle est au service du collectif ou du club. Donc, je confirme tes propos.
Voilà, c'est vraiment, alors quand on découvre le milieu du sport comme ça, on est étonné de ce genre de fonctionnement. Et pour prendre l'exemple de l'EAC, c'est un club hyper dynamique qui va dans ce sens-là, justement, de l'esprit collectif. Les sportifs eurois qui sont pressentis pour aller sur les Jeux, il y en a plusieurs qui travaillent. Comment ça se passe, la sélection, et quand est-ce qu'elle aura lieu? Quand est-ce qu'on saura... est-ce que vous savez d'ailleurs comment ça se passe? Parce que je vous dis ça comme si vous étiez la science intégrale des Jeux Olympiques. Mais moi, je voulais savoir, nos sportifs eurois, y en a-t-il déjà de sélectionnés pour les Jeux? Quand est-ce que ça se passe et comment ça se fait?
Alors, pour parler un petit peu de ça, alors moi qui ne suis pas Eurois d'origine, donc j'ai pas tous les noms et prénoms et connaissances du terrain que Pauline peut avoir, mais il faut savoir que donc on a des sportifs qui iront au jeu. Tous ne sont pas encore sélectionnés.
Mais il y en a déjà des sélectionnés. Non, pas encore.
Ah, Pauline me dit non. Non, alors il y en a pas encore sélectionnés. Il faut savoir qu'il y a déjà certaines disciplines où les minima sont pas encore terminés. Enfin, les qualifications pour participer aux Jeux Olympiques ne sont pas encore terminées. Donc il y a des résultats qui vont tomber dans plusieurs disciplines. Alors j'ai pas forcément les disciplines en tête, mais qui tomberont plus tard. Donc voilà, on espère qu'il y en aura. Je sais pas si on a si t'as des noms de...
Alors on va dire qu'on a deux grosses disciplines de pressenti, donc l'athlétisme avec jusqu'au maté sur le 110 mètres haies, et puis le judo, donc là c'est Romaric Bouda qui est judoka, qui s'entraîne à l'INSEP, et on espère qu'il y aura une qualification. Donc effectivement les qualifications selon les disciplines ne sont pas les mêmes. On sait qu'il y a certains sports collectifs notamment qui ont des tournois de qualification, donc ça va tomber bientôt. Pour les sports individuels, c'est d'autres formats de qualification et ça va tomber vers avril-mai.
D'accord, bon, on sera attentif pour soutenir nos Eurois, bien entendu, sur ce fonctionnement. Quand on est un territoire comme l'Eure et que ça se passe à 100 km, les Jeux Olympiques, comment on s'en saisit à l'échelle d'un département? Et vous êtes bien placé pour le savoir, hein, je rappelle, Pauline et puis Raphaël, vous êtes missionnés par le département de l'Eure pour faire la promotion des Jeux et la promotion du sport plus largement sur le territoire. Ça veut dire quoi quand ça va se passer à moins de 100 km? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des sportifs qui vont venir jusque dans l'Eure? Est-ce qu'on a une base arrière de Paris 2024 dans l'Eure? Est-ce qu'on en profite pour organiser des séjours, des... Je sais pas, comment ça se passe? Comment on se saisit du truc? Parce que quand ça se passe à Pékin, c'est plus difficile de mobiliser le département de l'Eure. Quand ça se passe à Paris, j'imagine que ça veut dire des choses.
Alors, pour répondre un petit peu à ça, déjà, je pense que le fait d'être donc en France et surtout pendant Paris, il y a un engouement qui est pas le même sur l'ensemble du territoire. Je pense que nous, dans l'Eure, avec la proximité qu'on a avec la capitale, on a la chance d'avoir un engouement, je pense, un peu plus important. Ensuite, ce qui se passe, c'est que il y a énormément d'actions qui sont mises en place pour essayer de faire participer au maximum la population à cette grande fête populaire. À la fois que ça soit sur la billetterie, alors je sais pas, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais voilà, le département a mis en place une billetterie des Jeux pour emmener un maximum de personnes à ces Jeux Olympiques. Il y a aussi des dispositifs de l'État qui ont été mis en place, comme un projet qui s'appelait Ma Classe aux Jeux, pour emmener des classes de collège et autres aux Jeux Olympiques. La proximité, c'est un atout. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas de notre ressort, sur notamment les transports et des choses comme ça, qui sont un peu plus compliquées à gérer et à appréhender. Mais c'est sûr qu'il y a une chance d'être proche de ce lieu de fête.
Pour compléter, donc sur la question que tu posais sur les bases arrières, effectivement, on a plusieurs sites du département qui ont été labellisés. Alors, le label, il s'appelle Centre de préparation aux Jeux. Et donc, ça veut dire que ce sont des sites qui sont en mesure d'accueillir des délégations étrangères. Donc, on en a 6, si je ne dis pas de bêtises, sur le territoire. Aujourd'hui, comme les qualifications ne sont pas forcément validées, il y a eu des visites pour faire de la prospection, pour voir si potentiellement les délégations pouvaient venir sur le territoire. On a quelques touches. Il y a certaines conventions qui ont été signées, mais on attend encore les qualifications pour être sûr que les délégations vont venir se préparer chez nous.
Il y a un enjeu pour les attirer un peu. On a envie de les attirer quand même. Ça permet quand même d'avoir, quand on a des sportifs internationaux de très haut niveau ou des équipes qui sont sur le territoire, c'est plutôt valorisant. Oui. Et pour le territoire et pour les habitants aussi, de pouvoir avoir un petit bout de Jeux Olympiques dans le jardin presque.
Totalement. Il y a eu plusieurs enjeux. Le premier, effectivement, c'est de faire connaître son territoire et d'accueillir juste en amont des Jeux Olympiques une délégation pour faire de l'échange aussi avec la population. Le deuxième enjeu, c'est créer ce fameux héritage des JO et puis permettre à ces délégations de revenir dans un autre cadre, parce que même si là on a les JO à côté, en soi les délégations étrangères, elles ont des compétitions à l'international, et si elles se sont plus chez nous, peut-être qu'elles reviendront se préparer s'il y a des championnats d'Europe ou autre. pas très loin. Donc il y a cet enjeu-là. Et puis ça a permis aussi à certaines collectivités d'enclencher une rénovation de leurs équipements. C'était aussi une manière de garder un héritage des Jeux avec les JO qui arrivent. Forcément, on a envie d'avoir les équipements les plus propres et les plus au point.
C'est ça, faut sélectionner tous les gymnases ou tous les terrains de sport qui mériteraient rénovation. On dit, ouais, on les met candidats pour les JO.
C'est un peu ça. Il y a eu des aides de l'État justement dédiées à la rénovation, création d'équipements sportifs il y a encore quelques années pour ça.
Quand tu dis une équipe viendrait se préparer là à l'occasion des JO, ça peut être l'occasion, si elle s'est bien sentie bien sur cet endroit-là, de revenir sur d'autres préparations, sur des compétitions internationales. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion-là, qui est pas une notion intégrée pour tout le monde, j'imagine. Ça veut dire quoi quand on va se préparer dans un autre pays que de là où on vient pour préparer une compétition? Ça veut dire quoi? C'est quel moyen qu'on met à dispo dans ces cas-là? Je prends l'exemple de l'athlétisme, par exemple, quelque chose qui est marquant sur les Jeux Olympiques, par exemple, et puis qui, toi, tu sais bien comment ça fonctionne. Sur l'athlétisme, par exemple, ça voudrait dire quoi sur une compétition internationale qu'une équipe vienne se préparer dans le coin?
Alors, il y a plusieurs enjeux quand on est dans un continent différent et qu'on doit venir se préparer pour une compétition. Il faut déjà s'acclimater. Donc, il y a la notion déjà de décalage horaire. Ça, le climat, parce que s'entraîner quand il fait 30 degrés tous les jours ou quand il en fait 15, c'est pas la même chose. Donc, il faut s'habituer à ça. Et puis, c'est le fait, je pense, psychologiquement aussi, de se rapprocher de l'échéance. Et donc, souvent, quand on commence à vivre avec son groupe de préparation, on est déjà dans notre petite bulle. Et c'est avoir tous les moyens, que ce soit d'entraînement, de récupération, optimum pour s'entraîner, se préparer pour le jour J.
C'est ça, c'est donc avoir à dispo quasi en permanence sur le territoire des sites pouvant accueillir des sportifs en préparation d'une compétition internationale.
Effectivement.
Je voulais revenir... Non, on y reviendra après. Je vous propose une pause musicale maintenant et on revient après sur ces questions d'accès des Jeux. Et puis, on va rentrer un peu plus précisément ensuite dans les projets plus spécifiques. Kokomo, moi je les avais vus l'année dernière sur le festival Ça sonne à la porte. Et ben j'en remets une petite couche aujourd'hui. C'était peut-être il y a 2 ans d'ailleurs, Kokomo, je sais plus. Oh là là, c'est dingue comment le temps passe vite.
Yeah.
Kokomo, voilà, allez en chercher, allez vous en mettre plein les oreilles parce que ça vaut carrément le coup. Vous êtes toujours dans le pire, reste à venir sur les antennes d'HDR et de Principe Actif et ce matin, c'est Jeux Olympiques.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à
9h. Sur HDR et Principe Actif.
Et je le disais, nous sommes avec Pauline et Raphaël qui portent le projet, enfin qui coordonnent le projet Terre de Jeux, porté par le département de l'Eure, dans l'Eure bien entendu, mais il y en a sûrement en Seine-Maritime qui est porté par la Seine-Maritime, Pauline. Parce qu'en fait, je pense aussi à nos amis rouennais. Hein.
Oui, le département de Seine-Maritime est aussi labellisé Terre de Jeux. On a déjà porté des projets en commun et aujourd'hui, ils ont leur plan d'action aussi. Alors, c'est pas le même, on n'a pas le même territoire. On n'est pas le même mode d'action, mais il y a quand même des similitudes.
Voilà. Sur, moi, je voulais revenir sur un point qui me paraît important. Tout à l'heure, Pauline, tu évoquais le projet d'emmener les classes aux Jeux. On parlait des compétitions et tout. Moi, j'avais la sensation quand même que les billets pour assister aux compétitions étaient intouchables. Les premières billetteries, les premières ventes, voilà, je me suis dit d'accord, si c'est ça le truc, je suis pas prêt d'y aller, quoi. Quelle en est la mise en œuvre sur le territoire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par le département de l'Eure pour pouvoir emmener des classes, pour pouvoir, comment ça se passe cette histoire de billetterie intouchable?
Alors effectivement, dans un premier temps, la billetterie elle était intouchable et moi la première, je n'ai pas cédé. Je me suis dit, je laisse mon compte épargne tranquille et je ne prends pas de place. Mais par la suite, il y a eu des ouvertures, alors des micro-ouvertures. Hein, on a reçu des mails, il fallait être très attentif, avec des places plutôt abordables. Et pour le coup, là, j'en ai profité pour acheter des places. Donc, c'est jouable. Je sais qu'il y a encore 24 heures, on a eu une nouvelle ouverture. Donc, il faut juste être attentif et les prix sont... Enfin, on va dire que les places les moins chères sont maintenant accessibles, ce qui n'était pas le cas. Elles étaient bloquées. Alors, on n'a pas toutes... les raisons, mais on en a peut-être certaines. Je vais laisser Raphaël expliquer les dispositifs que le département porte et que l'État porte aussi.
Et alors, donc du coup, on se tient à l'affût comment là? Parce que Pauline, voilà, j'ai bien vu son sourire jusqu'aux oreilles. Non, mais son sourire jusqu'aux oreilles, de dire, ça y est, moi j'ai géré. T'as géré des compètes, c'est ça?
Ouais, effectivement. Plusieurs. J'allais voir de l'athlé, du foot, du rugby et tout ce qui est sport urbain.
Ah ouais, pas mal. Voilà. Ah ouais, t'as eu des bons plans, toi.
Ouais, je pouvais pas rater cette occasion pour le coup. J'en ai profité, j'ai pas touché à mon compte épargne. Donc tout va bien.
Ah bah, c'est pas mal alors, c'est pas mal. Mais non, mais je voyais, j'étais obligé de le dire aux auditeurs parce que t'avais un sourire juste aux oreilles quand t'as dit ouais, et après hâte. C'était bon.
Et donc, pour répondre à ta question, il faut être à l'affût, faut regarder ses mails et ses spams tous les jours. Voilà.
D'accord. Et s'inscrire déjà sur tous les réseaux, Jeux ouais, Olympiques.
Exactement.
D'accord, j'aime bien le truc de Pauline. Ses mails et ses spams.
Ouais.
C'est parce qu'il y en a, ça se cache dans les spams. Ouais. Raphaël, sur cette histoire de département de l'Eure, comment ça fonctionne sur les billetteries alors, et comment on peut bénéficier de quoi?
Le département a eu l'occasion d'acheter des places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était des lots de compétition. Et on a eu la chance et l'occasion d'acheter environ 850 places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc à peu près 400 et 400 dans l'idée répartis sur les deux compétitions. Et le but de ces places, c'est vraiment de les redistribuer à la population via des projets, des appels à projets qui sont faits. Donc on fait gagner, il y a pas mal de collèges qui ont déjà eu l'occasion de gagner, donc ça s'est passé notamment pendant le Cross UNSS qui avait eu lieu en novembre. Donc
tout
voilà, il y avait des places qui avaient été redistribuées à un collège à ce moment-là. On essayait de faire participer aussi.
C'était le collège qui avait remporté le trophée collège ou pas?
Non,
Pauline, non,
non,
parce qu'on y était sur le lieu là.
Effectivement. Et... pour la petite histoire, alors Raphaël complétera, mais on n'est pas du tout sur un projet élitiste où on fait gagner tout le temps les meilleurs. Là, on a redistribué des places au collège qui avait eu le plus de mobilisation sur le cross du district, donc l'étape d'avant. Donc on a eu le temps de faire le point sur l'ensemble des étapes d'avant. Et en termes de pourcentage, c'est le collège qui avait mobilisé le plus d'élèves et c'est pour ça qu'on l'a récompensé.
Bon bah ça m'arrange que ce soit pas que les meilleures performances qui soient récompensées parce que je te cache pas que sinon il y avait peu de chances que je sois récompensé en sport. Hein. Raphaël.
Et donc pour finir sur cette billetterie, l'idée c'est alors aujourd'hui on a encore beaucoup de places qu'on doit distribuer. Donc on a créé plusieurs projets ou en tout cas plusieurs plans d'action pour la distribution de ces places. Donc on va travailler avec les comités sportifs, on va travailler avec notamment l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. On a des places qui sont diverses, donc on a à la fois des épreuves, on va dire, classiques, donc du volley, du basket, du tennis, des choses comme ça. On a aussi beaucoup de places sur le parc urbain qui se déroule à la Concorde et où ça sera une zone, une sorte de géante fan zone, on va dire, où on pourra observer des entraînements, des choses comme ça. Ça sera pas un lieu de compétition à part entière, mais voilà, c'est un endroit où il y aura beaucoup d'animation, beaucoup de mouvements, où il se passera plein de choses. Et là-dessus, donc voilà, on essaie de faire participer l'ensemble du territoire via des projets et de récompenser voilà, ceux qui participent et qui se donnent à fond, on va dire, dans cette grande fête des Jeux.
Justement, cette grande fête des Jeux, il y a la partie compétition, hyper importante, bien entendu, avec des médailles, des récompenses, des équipes qui donnent tout, enfin, voilà. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour des Jeux. Et quand on sait que les Jeux vont se dérouler cet été, on sait que le département, par exemple, de l'Eure, est déjà mobilisé depuis un petit moment. Il y a des actions qui s'y mettent, il y a du travail scolaire, pas que du scolaire d'ailleurs, hein, c'est les structures profitent de ce moment-là. Et puis, durant les compétitions, comme tu le disais à l'instant, Raphaël, il y a aussi la vie des Jeux Olympiques qu'il y a autour. C'est vraiment une compétition, peut-être celle qui fait d'ailleurs, qui met ça le plus en avant, qui fait autant de vie autour des épreuves que dans les épreuves finalement. J'ai la sensation qu'il se passe tout autant de choses autour de, on va dire, du cœur du projet Jeux Olympiques, hein, qui est la compétition sportive, mais il y a vraiment tout un tas de choses autour. Je dis pas de bêtises quand je dis ça, non, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe tout un tas de trucs autour et que c'est surtout l'opportunité d'en faire quelque chose, et notamment sur les territoires, et là on l'a évoqué sur le territoire de l'Eure en particulier. Comment on fait le lien entre une compétition sportive et finalement tout ce qu'on peut en tirer d'éducatif? Vous disiez que vous travaillez avec des collèges, avec des écoles. Comment on fait ce petit lien, ce petit truc entre finalement une compétition sportive et puis tout le travail éducatif?
Bah, pour en parler et répondre à ta question, évidemment, les Jeux Olympiques, en tout cas, nous, on ne le prend pas comme ça. C'est pas juste l'événement en tant que tel sur la quinzaine ou les trois semaines de compétition. C'est
parfois même
avant.
Sur les 10 secondes de la course.
Hein. Exact.
Non, mais des fois, il y a des épreuves qui se déroulent très très vite. Hein. Donc, heureusement qu'il y a tout un truc. Ouais, c'est ça, le 100 mètres.
Exactement.
Et les gens se préparent 4 ans pour ça.
Ouais, c'est ça, pour 10 secondes.
Ouais. Faut pas avoir de crampes. Et donc, comment on fait pour intégrer et faire participer l'ensemble des acteurs et de la population? Là, j'ai un exemple en tête.
Et puis, pourquoi presque? Enfin, presque même pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient tirer en éducatif de ça? Je complique la question en cours de route. Hein.
Ouais, je vois ça. Alors, je vais répondre à la première partie, je vais revenir sur la seconde après.
Bah, dépêche-toi, parce qu'après, c'est sur un pied.
Alors, pour faire rapidement, j'ai un exemple en tête. On avait fait participer des écoles et des collèges à un projet qui s'intitulait Réalise la une des Jeux. Donc, le but, c'était de faire participer donc, le côté un peu artistique, pour le coup, des étudiants qui devaient créer une l'équipe. Ils avaient juste un template et ils devaient créer voilà, la une avec les petits encarts pubs, ce qu'ils allaient mettre en avant, les choses comme ça. Et ensuite, voilà, nous, on reçoit ces unes et on essaie de créer voilà, à chaque fois des projets autour des Jeux, de raconter une histoire. Voilà, le but à chaque fois, c'est cette notion de raconter une histoire et faire participer le territoire à ces histoires via des projets comme c'est une de l'équipe.
Si je peux compléter ce projet, donc c'est un projet qu'on a intitulé Sport et Médias. Effectivement, les élèves ont eu une à créer. On a fait intervenir un journaliste sportif au sein du collège pour expliquer le métier et puis comment est-ce qu'on couvre du sport, donc jusqu'au niveau du niveau local au niveau international. Et l'objectif, c'est qu'on fasse une journée sport et médias où tu seras convié.
Tout à fait.
Pour faire différents ateliers autour du sport, parce que le sport, oui, ça se pratique, mais pas que, ça se commente aussi. Donc il y a plein de choses autour du sport et l'objectif, il est là. Et la finalité, ce serait d'aller visiter l'imprimerie de l'équipe, qui est aussi l'imprimerie du Média 2-7. Donc voilà, on a vraiment des projets autour des Jeux pour faire découvrir plein de petits axes complémentaires.
C'est ça, c'est une opportunité d'aller découvrir tout un tas de choses à travers cette grande fête.
On peut le dire, c'est la carotte.
À travers cette grande fête mondiale. Moi, j'aime bien cette notion de fête mondiale, en fait. Elles sont rares, ces occasions de faire la fête mondialement.
Ouais, effectivement, et le sport le permet. Le sport le permet. Quand on parle des JO, on parle de trêve olympique. Alors, ce terme-là, il est né lorsqu'il y avait la guerre pendant les JO et on parlait de trêve où là, tout s'arrêtait. Mais je pense qu'on peut garder cette notion aussi sur le côté positif où on s'arrête à un moment donné et on vit tous ensemble autour de bonnes valeurs et de choses positives.
Je voulais revenir, moi, sur les Jeux paralympiques, parce qu'en fait, quand on parle de Jeux olympiques, assez naturellement, les Jeux olympiques ordinaires, on voit très bien, il y a un engouement, il y a ça fonctionne et tout. Il y a cependant aussi une compétition qui s'ouvre juste après les Jeux olympiques, c'est fin août, début septembre, qui est celle des paralympiques, qui est clairement les Jeux olympiques pour les situations de handicap. Ça commence à rentrer dans les esprits, c'est une compétition qui a été boudée il y a très longtemps. C'est une compétition dont on commence de plus en plus à parler, à évoquer. Des noms de sportifs commencent à arriver au grand public, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. Et c'est vraiment dans la continuité des Jeux Olympiques. J'imagine que quand on parle du projet Terre de Jeux, on intègre bien entendu ces Jeux Paralympiques. Et comment on bosse et comment on se met en action là-dessus ?
Alors effectivement, la notion de Jeux paralympiques, elle est encore en retrait par rapport aux Jeux olympiques, même s'il y a beaucoup de visibilité comparée à quelques années. Je pense que le premier facteur, c'est la notion de couverture média, parce qu'on le sait, il y a certains, enfin, c'est pas des sports qu'on peut croiser dans le gymnase à côté, donc forcément, si ça passe pas à la télé, sur les réseaux sociaux, on peut ne jamais les voir. Donc il y a cette première problématique. Ensuite, nous, au quotidien, donc en plus département, on a cette compétence sociale, où on a la maison départementale du handicap qui est également sous la même maison. On a forcément des actions en commun. Donc nous, on fait de la sensibilisation au collège, toujours. Alors c'était en amont du projet Terre de Jeux, mais maintenant on le rattache aussi. Donc avec des partenaires, des comités sportifs, on a le comité handisport et le comité sport adapté. On intervient dans les collèges, on fait de la sensibilisation. Donc sensibilisation, c'est expliquer quels sont les différents handicaps, expliquer quels sont les sports possibles, et puis mettre en situation les élèves pour qu'ils puissent se rendre compte. On espère que ce message-là permettra, alors on ne leur souhaite pas du malheur, mais si jamais un jour ils ont un problème de ne pas s'arrêter à pratiquer, et puis s'ils connaissent des gens autour d'eux ou s'ils ont de la famille, leur rappeler que le sport est accessible pour tout le monde, ils peuvent s'en servir et puis ça peut être un outil pour aller mieux aussi.
La maison du handicap, une fois nous avait dit que dans la façon d'aborder cette notion du handicap, chacun, tout à chacun, dans la vie ou dans, va forcément se retrouver en situation de handicap. Alors temporairement, parfois, c'est un bras cassé, c'est une difficulté physique ou autre, mais aborder le handicap sous cet angle-là, je le trouve assez intéressant.
Effectivement.
Chacun de nous, d'un moment, normalement, enfin, statistiquement, on va dire, dans la vie, on est amené à être en situation de handicap, ce qui permet d'aborder cette notion de handicap peut-être différemment quand on se dit que ça va tous nous concerner au bout d'un moment. Alors bien entendu, le handicap chronique permanent n'est pas la même chose que le handicap temporaire sur une blessure ou autre, mais c'est cette notion de handicap qui est intéressante à aborder, en tout cas à intégrer comme ça. Au bout d'un moment dans ma vie, je vais me retrouver aussi en situation de handicap. Alors j'espère temporairement, j'espère le plus court temps possible, mais ça fait partie de la vie, quoi.
Effectivement, c'est un beau message. Et puis pour compléter ce que je disais, faire le lien avec ce que gère Raphaël au quotidien, on a donc la moitié des places qu'on a achetées qui sont sur les Jeux paralympiques. Donc forcément, on espère que ça aura un impact, que ce soit juste sur la sensibilisation, la découverte, et puis le fait que aujourd'hui le sport en général a besoin de bénévoles, et je pense que ces disciplines-là en ont encore plus besoin. Peut-être que ça fera nourrir aussi des vocations dans l'accompagnement de ces clubs qui ont besoin de monde.
Sur les sportifs sélectionnés en paralympique, est-ce qu'on a des Eurois pressentis aussi? Parce que je sais que par exemple on a un club de tennis de table très bien en paralympique qui a des résultats sur le sport adapté. Je suis en train de chercher le nom de la championne Maude, je ne sais plus. C'est ça, hein.
Tu vois de qui je parle. Pas le nom de famille, mais je vois de qui tu parles, qui a dû donner d'ailleurs son nom à un gymnase.
C'est terrible, j'ai plus les noms, mais en tout cas, on a des sections de sport adaptés sur Évreux à haut niveau. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des Eurois pressentis? Est-ce qu'il y a des sélections sur le paralympique au niveau des Eurois?
Ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'on a une escrimeuse handisport, donc qui est pressentie aussi pour participer. Donc, je vais pas m'avancer, mais je crois qu'elle est bien partie pour participer, oui.
Voilà, bon, les sélections sont pas faites, alors ouais. On va pas non plus leur mettre trop de pression dès maintenant. On compte sur toi pour les jeux, hein. mais voilà, c'était pour faire un peu le tour, parce qu'effectivement sur ces sports adaptés, sur Évreux, il y a aussi du sport adapté et quelques championnes et champions dans le coin aussi en sport adapté. Et ça fait partie des choses qu'on ne sait pas forcément.
Non,
c'est terrible, je suis en train de rechercher. C'est Maud, hein, je crois.
Sur le prénom, c'est Maud. J'ai oublié
son nom, c'est terrible. C'est terrible, parce que voilà, on nomme des sportifs et là, ça ne va pas jusqu'au bout. Si on retrouve le nom, on le dit, c'est promis. Là, je vois, il y a l'équipe qui est en train de rechercher. On trouvera.
Ouais, c'est Maud Pinchon, je n'ai pas osé.
Maud Pinchon, ouais, tout à fait. Et donc, le palmarès spécifiquement, c'était quoi? Elle était championne de quoi? Je ne sais pas. Ah non, pardon.
Je sais qu'elle a déjà participé à des mondiaux. Et
oui,
là,
tout à fait. Je sais pas.
Enfin, j'ai pas pouvoir bon, te bah dire, écoutez,
en tout cas, c'est une championne. Voilà, c'est ça. On l'avait déjà eu nous en interview aussi sur ces questions-là. Je vous propose une autre pause musicale avec Ren. C'est un artiste britannique entre rap et folk qui a des textes ultra inspirés. Celui-ci, c'est Loco.
My style is loco, Yoko on manic vocal. I'm not your uncle, I'm antisocial. Postal, danger to the world, I've gone global. Schizophrenic madness, put myself in a chokehold. Ho ho, yeah bro, tasty like a Rolo. Spiritual being, yes I'm holy like a polo. You know, you can set this song as your ringtone. Lord of the ring ring, you could be Frodo. Gimli, I'ma take this rhythm and I smoke it like a chimney. I'm a punk rocker, sucker, no I'm not an indie. Kiddy with a bindi, yes I will be indie. Shed, taking my meds, I slide. I stop beats like a knife through bread. When I go bowling, I use decapitated heads. I lose brains in the lane, so they call me miscellaneous. I'm the type of kid who makes cotton wool dangerous. I'm trying hard not to lose my mind. So what? I see stars when I close my eyes. So what? I try to keep this beast inside. So what? But I'm close to the edge and I might lose my head, so I guess you're better. My style is manic, close to the boil volcanic. I watch so much Scarface, I think I'm Hispanic. Okay, don't make me gay, loco on USA. Putos, I bust a cap, watch me get messy. Mentos and coke, I'm about to explode. I'm so open-minded that my eyes can't close. Doctor, doctor, give me some smiles. A 20-pack of Valium, numb for a while. Flow like the Nile, evil crocodile. I've got the local zoo saved on speed dial. Funky, I spent a bit of time with the monkeys. I gave one a Valium, now he's a junkie. Humpty Dumpty, he fell down. All the king's horses were stomped somehow. Of course all the horses were stomped. Horses don't even have opposable thumbs. I'm trying hard not to lose my mind. So what? I see stars when I close my eyes. So what? I try to keep this beast inside. So what? And I might lose my head, so I guess you better hide. Start juttering, I'm stuttering, buttering words like flora. Edible, spreadable, star glow like aurora. Northern light, ignite the night tonight. Excite the mic, right like a viper bite. It's just my venom, it's Renan, my lucky number 7. I don't follow fashion, so I'm wearing double denim. Mel Gibson crazy, my mind's a lethal weapon. Got kicked out the fruit store for grabbing a girl's melon. So get on with a baseball bat, type force or a harpoon. I'm knocking you for 6, wanna hit with a beat, with a bang, with a boom. I'ma fly right out this room, I'ma take off to that moon. I'ma rip when I spit, when I bite my lip, and I sick when I bust, I move like Gesso. I'ma take this microphone and make some acapella. Music for your eardrums and spoken like a texture. Stack it up like bricks, yes, I'm stacking up the texture. I bring the vibes right into the sector. I'm trying hard not to lose my mind. Whoa. I see stars when I close my eyes. Whoa. I try to keep this beast inside. Whoa. But I'm close to the edge and I might lose my head, so I guess you better hide.
Loco, titre de Ren qu'on peut retrouver sur toutes les bonnes plateformes, bien entendu.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et nous sommes toujours avec Raphaël et Pauline qui sont en charge du projet Terre de Jeux sur le département de l'Eure. On a parlé Jeux Olympiques, on a parlé compétition, on a parlé sport. Mais il y a un des projets que vous portez, c'est les Olympiades culturelles notamment. Et moi je voulais savoir ce qu'on y mettait là-dedans. Qu'est-ce que sont les Olympiades culturelles? Et ça veut dire quoi tout ça? Raphaël, peut-être
Les Olympiades culturelles, de manière générale, c'est des projets qui se rattachent aux Jeux Olympiques, qui sont d'ordre culturel, comme le nom l'indique.
Oui, alors on met ce qu'on veut dans le culturel. Hein,
on peut mettre beaucoup de choses dans le culturel.
Et un peu tout et n'importe quoi, des fois.
Exactement. Non, mais c'est un label qui peut être récupéré auprès de Paris 2024, donc en montant des dossiers en fonction des projets. C'est Paris 2024 qui attribue le label par la suite. Pour donner quelques exemples de projets olympiques culturels qu'on peut avoir sur le département. On a plusieurs expositions qui sont mises en place, des expositions itinérantes qu'on prête à certaines collectivités qui sont labellisées terres de jeux sur le territoire. Donc on a des expositions d'objets sportifs qui retracent un petit peu l'histoire de certains objets de sport, donc d'anciens objets sportifs, des choses comme ça. On a l'exposition des Unes de l'équipe, donc auquel on va intégrer les Unes des étudiants dont on parlait précédemment, donc le travail qu'ils auront réalisé seront intégrés dans cette exposition. Donc voilà, c'est ce genre de projet qu'on monte dans ces Olympiades culturelles.
Je peux me permettre de compléter, on a un gros projet avec les archives départementales. On est en train de faire une grande collecte euroise des archives du sport. L'objectif, c'est de pouvoir retracer l'histoire du sport sur notre territoire et d'en créer une exposition qui sera aussi itinérante. Et c'est l'un des gros projets de l'Olympiade culturelle chez nous.
Sur l'Eure, on est une terre de sport, on est une terre de sportifs. Alors me faites pas le coup de c'est la meilleure terre de sport parce que vous êtes du département. Hein. Répondez-moi franchement.
Bah, non, écoute, mais c'est Raphaël n'est pas du département. Il ne connaissait pas le département avant de venir, donc on va lui poser la question.
Très bien. Donc ouais, l'Eure, terre de sport ou pas, est-ce qu'on est un vivier de sportifs de haut niveau ou au contraire c'est la vivacité des petits clubs qui peut-être mettent en avant les choses? Comment ça se passe ce regard sur le département de l'Eure au niveau sportif?
Est-ce que je vais avoir la vision la plus nette? Je sais pas, mais en tout cas pour moi oui, il y a plein de clubs, beaucoup de clubs très investis aussi de manière générale au quotidien et sur des sujets aussi importants comme l'intégration dans certains sports, la place de la femme, du handicap, du handisport, des choses comme ça. Il y a beaucoup de clubs qui mettent beaucoup de choses en place et avec qui on travaille au quotidien et de plus en plus. Je sais pas exactement comment ça se passe dans les départements et sur les autres territoires, mais je pense que oui, dans le territoire roi en tout cas, il y a une histoire avec le sport, il y a une passion du sport qui est claire et qui doit être construite encore et qui continue d'être construite. Mais oui, il y a quand même une grosse base, un gros vivier sportif.
Ouais, et puis je tiens à le rappeler, hein, quand Raphaël il est arrivé et qu'on a commencé à lui expliquer ce qui se passait sur le territoire, qu'on lui a sorti certains noms de sportifs, il était bien étonné. Donc il oublie aussi qu'on est une terre de sportifs et qu'on lui a donné des noms qu'il ne pensait pas venir d'Evreux, par exemple.
Sur le football, oui. Il y a certains grands noms, j'avais pas la connaissance du territoire.
Oui, alors ouais, sur le foot.
Ça montre aussi une histoire.
Sur le foot, oui, il y a quelques fiertés, effectivement, locales. Depuis Jacques Anquetil quasiment, qui est aussi un roi, hein, c'est dans l'Eure qu'il s'entraînait sur des côtes de fous. Mais au-delà de ça, on a quelques fiertés euroises, peut-être de la dernière décennie. On revient pas sur le foot, hein, ça on les connaît bien, hein, ils sont très actifs. On a notamment Dembélé, on avait Mendy, on avait Bodmer. Voilà, ce sont un peu les fiertés locales, bien entendu. En dehors du foot, on a quelques grands sportifs sur les dernières décennies.
Je pense qu'on a sur la Formule 1, alors je suis vraiment pas une experte de cette discipline, mais on a un ébouricien, si je dis pas de bêtises.
Esteban Ocon. Ouais.
Exactement.
On a ça, pardon.
Esteban Ocon.
D'accord.
Sur la Formule 1. En natation, il est plus sur Évreux depuis plusieurs années, parce qu'il n'y a pas forcément de structure qui pouvait l'accueillir, mais je crois que c'est Maywen Thomas, si je dis pas de bêtises, qui est en natation, qui cartonne en ce moment et qui vient d'Evreux. Donc il y a plein de petits noms comme ça, mais c'est vrai que quand on parle des Jeux Olympiques, on voit tout de suite la grande compétition, on a l'impression que tous les athlètes sont des superstars, mais en fait quand on est du milieu, on les connaît, Mais en fait, souvent, c'est encore assez discret. Alors, même si les réseaux sociaux commencent à aider pour leur notoriété, on a plein d'athlètes, je pense, qu'on a déjà fait là, les JO dernièrement et qui ne sont pas hyper connus si on demande leur nom dans la rue. Je pense que tout le monde ne pourra pas les citer.
Et puis, moi, je me souviens, c'était en 2012 d'ailleurs, je crois, c'était l'équipe de basket qui avait remporté. C'était une médaille d'or ou pas, Pauline ? Je
m'en souviens plus. Médaille d'argent, j'y étais.
Et on avait notamment Émilie Gomis sur le territoire qui était dans l'équipe de France. Quand je l'avais rencontrée il y a 2 ou 3 ans, donc c'est-à-dire 10 ans après les Jeux quand même, on sentait toujours cette flamme dans les yeux et finalement... Ça, alors ce que ça a changé sa vie, oui, ça a confirmé dans le sport et ça donne un palmarès quand même. Mais finalement, effectivement, comme tu disais, ce sont d'illustres inconnus qui si on n'est pas dans le réseau, finalement, dans la rue, personne ne les arrête pour leur parler de leur haute performance. Ouais. Et pourtant, ça reste des sportifs de très haut niveau. Quoi.
Effectivement, alors je pense qu'une médaille aux Jeux Olympiques, c'est marquant. Et oui, ça a dû changer la vie de plusieurs athlètes. Pour la petite anecdote, moi, je me souviens encore, je crois que c'était à Noël dernier, Émilie Gomis, je l'ai vue dans Carrefour à Évreux faire ses courses tranquillement avec personne qui lui sautait dessus. Après, elle était capuchée et n'avait pas non plus en mode superstar. Mais c'est vrai que je pense qu'un Mbappé à Carrefour à Évreux, ça ferait plus de dégâts quand même.
Et pourtant, elle est médaillée d'argent aux Jeux Olympiques,
ce qui est loin d'être rien. Et plutôt reconnue sur le territoire. Alors, une fois de plus, j'ai ma casquette de sportive et je pense que je ne suis pas totalement objective, mais je pense qu'encore, on est sur un nom qui parle ici et je pense qu'il y en a qui sont encore moins connus.
C'est un nom qui parle parce qu'en fait, j'ai croisé aussi quelques-uns qui avaient soit fait les Jeux sans être médaillés, soit médaillés. On a l'impression qu'ils ont comme une mission après d'aller en parler, en fait, tout simplement, avec cette envie d'aller aussi parler de cette expérience. Ça fait partie, je crois que ça marque suffisamment pour en parler après.
Ouais, je pense quand même qu'il faut bien se rendre compte que pour ces athlètes-là, c'est l'événement d'une vie, c'est la course d'une vie, c'est le lancer pour certains d'une vie, c'est l'objectif. Et participer au jeu, voilà, c'est une finalité, c'est quelque chose d'exceptionnel pour eux. Donc forcément, rien que d'y participer, je pense que ça évoque pour eux et ça veut dire beaucoup. Et ils ont pour beaucoup ce besoin d'en parler, de témoigner, de donner envie. Et il y a aussi une fierté aussi qui s'installe qui est complètement normale. Donc ça participe.
Je me permets juste de faire une parenthèse. Demain matin sur les antennes de Principe Actif, c'est le collège des 7 épis de Saint-André-de-l'Eure qui consacre une émission qui va durer 1h30 autour des Jeux Olympiques avec, normalement, si on se goupille bien, un témoignage d'un sportif qui a déjà fait les Jeux. On aura tout un tas d'intervenants qui viendront parler des Jeux aussi. C'est demain matin aux alentours de 10h30 sur les antennes de Principe Actif. Une classe entière de collégiens qui ont consacré une émission aux Jeux Olympiques. Voilà. Je propose une dernière petite pause musicale et puis nous revenons pour conclure cette émission. Je renvoie du rock'n'roll parce que moi ça me fait bien plaisir. Les Black Keys qui ont un tout nouveau projet, un projet frais en tout cas, et le titre choisi Beautiful People.
Again. just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high.
Black Keys avec Beautiful People.
Le bien reste à venir. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HBR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Et nous sommes toujours avec Pauline et Raphaël du département de l'Eure qui portent, j'allais dire à eux seuls, non carrément pas à eux seuls, en plus ils le portent avec plein d'autres gens, le projet Terre de Jeux. Ça fait une heure qu'ils me disent qu'ils sont un réseau de partenaires de ouf et tout, et moi je repars en disant ouais, qui porte à eux seuls? Non, rien du tout à eux seuls. En tout cas, qui coordonne ce projet Terre de Jeux sur le département de l'Eure, on le disait tout à l'heure, sur la Seine-Maritime également, il y a ce projet Terre de Jeux, il y a le label Terre de Jeux avec plein d'actions qui sont mise également en place. Moi, je voulais revenir sur une notion qui a fait couler un peu d'encre, mais qui n'est pas si anodine que ça, qui est celle du passage de la flamme dans le département de l'Eure. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, un passage de flamme dans le département de l'Eure?
Alors, Raphaël, peut-être, ouais. C'est beaucoup de symboles, d'abord. La flamme olympique, en tout cas pour Paris 2024 et les JO, ça représente énormément. On a la chance sur le territoire d'accueillir la flamme qui va arriver donc à Marseille le 8 mai et qui arrive sur le département pour la flamme olympique le 6 juillet. Et on a la chance aussi en tant que département de l'Eure d'accueillir à la fois la flamme olympique le 6 juillet qui va passer par 7 villes, donc Pont-Audemer, Gisors, Val-de-Reuil, Bernay, Évreux, donc elle passe à Évreux, Verneuil et Vernon. Et le 26 août, on accueillera la flamme paralympique qui passera alors là seulement à Louviers. Beaucoup de temps, ça va être sur une journée très rythmée, mais ça va être une très belle fête populaire avec environ une centaine de relayeurs sur le territoire qui vont se passer symboliquement la flamme de ville en ville.
Voilà, ça c'était justement le symbole aussi de la fraternité et du partage, c'est cette flamme qui arrive jusqu'aux Jeux Olympiques, qui vient allumer cette grande torche qui flambera durant tous les Jeux. Voilà, et c'est bah forcément, on est en plein dans du symbole. Des porteurs eurois, bien entendu, qui se succéderont. J'imagine qu'il y a du monde en candidat. Qui c'est qui choisit, d'ailleurs? Qui c'est qui porte la flamme? Parce que moi, j'avais demandé et on m'a dit non.
Ah, on t'a dit non?
Ouais.
Bon, on va revenir là-dessus. Non, pour être plus sérieux, les choix sont divers. C'est-à-dire que Paris 2024 va choisir eux-mêmes des porteurs, les partenaires, donc ne pour pas les citer, vont eux aussi, les partenaires officiels de Paris 2024 vont eux aussi choisir des porteurs de flamme et la majorité. Nous, en tant que département, donc vu que c'est nous qui payons ce relais sur le territoire, on avait la possibilité de présenter des noms. Le but, c'était d'avoir des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et voilà, sur cette base-là, on a fait un appel à candidature. Certaines personnes pouvaient nous envoyer des profils et ensuite, on devait sélectionner, voir avec les élus et présenter ça à Paris 2024.
Très bien, et ben tout ça. La date du passage de la flamme,
alors,
j'ai oublié.
Alors le 6 juillet, elle passe donc dans les 7 villes, je les rappelle, Pont-Audemer, Gisors, Val-de-Reuil, Bernay, Évreux, Verneuil et Vernon, qui sera la ville étape Vernon, et le 26 août à Louviers.
Et ben très bien, tout ça c'est noté, ce sera l'occasion de faire la fête. Où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le projet Terre de Jeux ou les Jeux Olympiques par rapport au département? Pauline, toi, tu avais l'info.
Effectivement, sur le site du département, il y a un onglet qui va être créé spécifiquement pour les actualités sur les JO. Donc, vous pouvez nous retrouver sur orennormandie.fr. Et donc, vous aurez les infos sur nos différentes expositions, sur les événements du territoire, parce qu'on coordonne le label Terre de Jeux sur l'ensemble du département. Donc, les infos de chaque commune pourront être remontées également.
Et puis, on l'avait dit et on le fera. On s'était dit qu'on ferait un deuxième épisode, peut-être avec des sportifs, avec des sélectionnés, des choses comme ça, parce que je ne vous lâcherai pas. C'est vous, mon contact Jeux Olympiques, Raphaël, Pauline. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin à nos micros parler du projet Terre de Jeux. Vous, restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.